la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
C'est un dossier parmi les plus explosifs qui était discuté cet après-midi à l'Assemblée nationale, la réforme du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Adopté de justesse par le Congrès calédonien ce lundi, puis avec une grande majorité dans la foulée par le Sénat, à 304 voix contre 20, cette proposition de loi organique vise à élargir le corps électoral des élections provinciales de Nouvelle-Calédonie aux natifs calédoniens, soit 10 569 électeurs additionnels, et ce, à quelques semaines du scrutin provincial qui doit se tenir le 28 juin prochain, après trois reports alors qu'elles étaient initialement prévues au printemps 2024. Cet élargissement du corps électoral, Sébastien Lecornu est venu le défendre lui-même à la tribune, mettant en garde contre le statu quo institutionnel qui pourrait être, selon lui, le ferment de la violence. Cet avertissement intervient en effet 2 ans après les émeutes sur le Caillou qui avaient fait à l'époque 14 morts, causé plus de 2 milliards d'euros de dégâts et laissé derrière elle une économie exsangue et une situation politique paralysée, le face-à-face entre indépendantistes et non-indépendantistes paraissant insurmontable. La situation apparaît toujours tendue, les non-indépendantistes soutenant la réforme au nom de l'égalité, tandis que les indépendantistes la refusent, craignant une dilution du vote kanak. Car derrière ces quelques milliers d'électeurs qui viendraient s'ajouter aux 180 000 électeurs inscrits sur le corps électoral spécial provincial, c'est bien l'identité de l'archipel et son avenir qui sont en débat. Chaque réforme électorale touche quelque chose de plus profond qu'un simple droit de vote, la mémoire coloniale, l'équilibre démographique et la promesse d'émancipation faite aux Kanaks, et vient poser inlassablement cette même question : qui décide de l'avenir du territoire ? Question qui continue aujourd'hui de fracturer l'archipel. Dans la matinale aujourd'hui, nous recevrons Raph de l'association Utopia 56 pour une discussion autour de l'accord migratoire franco-britannique visant à réduire les traversées clandestines de la Manche, discussion menée par Zoé. Ce sera ensuite le flash info de Sabrina, suivi de la chronique de Hassan. Puis dans le Zoom, Betty échangera avec Quentin Bajac, commissaire de l'exposition Martin Parr, qui se tient jusqu'au 24 mai au Jeu de Pomme de Paris. Puis nous clôturons cette matinale avec le billet de l'IA. La matinale de 19h, ça commence maintenant, alors restez avec nous sur le 93.9.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
À l'été 2025 était conclu un accord franco-britannique dans le but de réduire les traversées illégales de la Manche, accord qui instaure le principe du 1 pour 1, un migrant clandestin renvoyé en France en échange d'un migrant légal accepté au Royaume-Uni. Cela fait donc maintenant 10 mois que cet accord est entré en vigueur. Et pour en discuter, nous recevons Raph qui coordonne l'antenne Utopia 56 de Grande-Synthe. Bonjour Raph. Est-ce que vous nous entendez Raph ? On a un petit problème en studio, on va connecter avec Raph dans une seconde. Est-ce que vous nous recevez Raph ? Toujours pas, je pense que ça va arriver dans une seconde. On a un problème de connexion, je ne sais pas s'il est en ligne ou pas. Est-ce que Raph, vous êtes là ?
Oui, je vous entends.
Parfait, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Campus Paris. Cette interview sera menée par Zoé. Bonjour Zoé.
Bonjour. Bonjour Raph, vous êtes coordinateur de l'antenne Utopia 56 à Grande-Synthe. Votre association, créée en 2015, vient en aide aux personnes exilées et aux personnes à la rue. Chaque année, des milliers de personnes tentent de rejoindre le Royaume-Uni au péril de leur vie. En 2025, on comptait plus de 41 000 traversées et au moins 42 morts à la frontière. Récemment, la France et le Royaume-Uni ont encore multiplié les accords sécuritaires. Nous faisons le point avec vous sur la situation du littoral. Alors, peut-être pouvez-vous d'abord nous rappeler le rôle d'Utopia 56 et les principes d'action que vous menez sur le littoral ?
Oui, bonjour à tout le monde et à toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui, on vous entend, Raph.
Ok. Du coup, oui, Utopia 56 est mobilisée depuis 2015 à la frontière franco-britannique et s'est développée un peu partout en France, en tout cas dans cette autre ville en France. Et bon, pour répondre à votre question par rapport à nos missions sur le littoral franco-britannique, on a deux antennes, une à Grande-Synthe, donc à côté de Dunkerque, et une à Calais. Et nos missions sont plus ou moins les mêmes sur ces deux territoires, même si elles prennent en compte les différences qu'il peut y avoir. Notre mission principale est d'apporter de l'information aux personnes qui sont bloquées à la frontière, donc de l'information par rapport aux activités associatives, aux autres associations, de l'information sur le droit des personnes, et aussi de l'information sur les risques de la traversée. Avec une posture vis-à-vis des personnes de ne pas dire traverser ou ne traverser pas, mais de plutôt présenter de quels sont les risques liés, par exemple, à la météo, etc. quoi. En même temps que cette information, il est important pour nous de sensibiliser les personnes au numéro d'urgence. Alors, on passe notamment beaucoup de temps à expliquer le fonctionnement du 112 pour que les personnes, lorsqu'elles sont en détresse, que ce soit sur terre qu'elles aient besoin d'une ambulance ou en mer qu'elles aient besoin d'un secours lorsqu'elles sont en détresse sur les petites embarcations, on passe du temps avec elles pour parler du 112. Ce qu'on a observé depuis le moment où on est là, c'est qu'il y a parfois des difficultés pour les personnes de joindre le 112. Alors des difficultés liées à se mettre en accord sur une langue commune sur laquelle les personnes peuvent échanger. Donc il y a parfois des difficultés dans la discussion avec les services d'urgence. Donc l'association a aussi développé une ligne téléphonique, une permanence téléphonique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est tenue par des personnes bénévoles. Et donc ça, c'est la deuxième mission, c'est de répondre et de tenir cette permanence téléphonique. Donc dans cette permanence téléphonique, on peut avoir toutes sortes de demandes d'informations. La plupart du temps, c'est de l'information par rapport... Enfin, c'est des demandes venant des personnes qui sont bloquées à la frontière sur des activités d'autres associations, mais on reçoit aussi des appels de détresse des personnes qui sont... en mer ou sur terre. Par exemple, l'année dernière, pardon, on a été contacté par plus de 700 groupes de personnes qui étaient en détresse sur le littoral, donc après une tentative de traversée, et plus de 400 fois par des personnes qui nous disaient être en détresse en mer. Et donc, lorsqu'on reçoit ce genre d'appel, nous, on a toute une procédure pour transmettre l'alerte aux services de secours compétents. Et enfin, lorsque la météo ou les conditions météo nous laissent penser que peut-être des personnes tenteront la traversée, on a une mission de maraude sur le littoral qui va à peu près de la frontière belge jusqu'en dessous Boulogne-sur-Mer, où 3-4 bénévoles dans un véhicule rempli d'affaires, de denrées alimentaires, de thé, parcourent le littoral pour aller à la rencontre des personnes qui sont en détresse, donc après une tentative de traversée échouée ou empêchée par les forces de l'ordre. Cette mission sur le littoral, elle a aussi un autre but, c'est observer et documenter les différentes formes de violences institutionnelles que les personnes subissent à la frontière franco-britannique. Ça peut être notamment des violences policières, mais aussi des refus de prise en charge par les institutions de secours ou le refus de prise en charge de la détresse des personnes lorsqu'elles sont trempées sur le littoral. Voilà un peu, de façon assez résumée, nos missions à la frontière franco-britannique.
Pour revenir par rapport aux violences institutionnelles, il y a notamment eu le 9 juillet 2025 l'accord One In, One Out. Les deux gouvernements l'ont présenté comme un dispositif de dissuasion qui viserait notamment, je cite, à prévenir les traversées périlleuses. Concrètement, en quoi consiste ce dispositif et qu'est-ce qu'il prévoit pour les personnes qui traversent la Manche?
Alors en effet, oui, ça a été une grande discussion entre les deux gouvernements l'été dernier. Donc oui, signé en juillet 2025, mais effectif à partir de août 2025, c'est à ce moment-là où les associations, alors que ce soit du côté anglais, en tout cas britannique et côté français, ont observé les premières déportations des personnes qui étaient en Angleterre vers la France suite à une traversée via petite embarcation. Alors pour nous, en tout cas d'un point de vue associatif et d'un point de vue d'Utopia 56, puisque notre cadre d'intervention n'est pas tant sur le volet juridique et en tout cas soutien juridique aux personnes, mais plutôt sur une approche d'un soutien matériel aux personnes et à la détresse des personnes sur le littoral. Donc c'est un peu dans ce cadre-là et dans ce point de vue-là que je peux essayer de vous répondre. Nous, de ce point de vue-là, les conditions de cet accord sont assez floues et ça peut nous paraître aussi ultra arbitraire comme condition. Alors il faut déjà savoir que cet accord est basé sur un échange, c'est-à-dire un échange entre des personnes qui sont sur le territoire britannique, qui sont déportées vers la France, et des personnes qui sont sur le territoire français, qui peuvent aller au Royaume-Uni. Depuis le mois d'août dernier, ça concerne environ 600 personnes. Alors, les chiffres que j'ai réussi à trouver, ça date du 28 avril de cette année. 605 personnes ont été déportées depuis le Royaume-Uni vers la France, et 581 personnes sont allées de la France vers le Royaume-Uni. Alors ça, c'est déjà au-delà de la violence de ce système on parle pour les personnes renvoyées de personnes qui ont risqué leur vie, peut-être à de nombreuses reprises, pour tenter la traversée, et une fois rendues sur le territoire britannique, elles sont déportées dans un pays avec lequel elles ont aucun lien, puisque c'est des personnes qui n'ont pas la volonté de rester en France, ou pas la possibilité en tout cas de rester en France. Donc il y a déjà cette déportation qui est ultra violente pour celle-ci. Et en plus, ça oblige au final, on s'en rend compte par rapport aux personnes qu'on rencontre sur le littoral et dans les campements, que des personnes qui ont été déportées vont retenter la traversée quoi qu'il arrive, puisqu'elles n'ont aucune autre alternative, en tout cas, ou pas d'autre envie que de se rendre en Grande-Bretagne. Vous avez dit quelque chose d'important, puisque le gouvernement britannique et le gouvernement français ont décidé cet accord, pas pour faire en sorte que des personnes ne risquent plus leur vie pour traverser vers la Grande-Bretagne, mais bien pour supprimer, et ça c'est des citations du Premier ministre britannique, pour supprimer les incitations qui attirent les personnes vers le Royaume-Uni. On est bien dans un autre outil de répression qui est administratif, celui-là, et arbitraire aussi pour les personnes détenues, qui a été mis en place depuis quasiment 6 mois. Chose qui est aussi alarmante par rapport à cet accord. Donc, de nombreuses associations l'ont dénoncé par le caractère inhumain et par le fait qu'il ne reste.
Et du coup, de ce qu'on comprend, c'est que cet accord ne dissuade pas les personnes qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne. Alors, est-ce que ça rend la traversée plus dangereuse qu'elle était ou pas ?
Alors, cet accord, nous, depuis que cet accord a été passé, on a observé que l'année dernière, quasiment 40 000 personnes ont traversé depuis les côtes françaises vers le Royaume-Uni. Donc, il n'y a aucun autre effet que celui de rendre la traversée plus violente pour les personnes, puisqu'il y a tout le temps ce risque d'être emprisonné, en tout cas d'être en privation de liberté une fois rendu au Royaume-Uni, puis d'être déporté dans un pays dans lequel on n'a de toute vraisemblance aucun lien. Et nous, ce qu'on observe dans le risque que cet accord fait courir aux personnes, c'est qu'elles vont retenter la traversée. Les personnes ayant déjà réussi une fois cette traversée sont forcées par cet accord à le retenter une deuxième fois si elles sont déportées de nouveau en France, etc.
Très bien, merci beaucoup. On reprend tout de suite après.
On fait une petite pause musicale avec Untrust Us de Crystal Castles. We'll be right back. écouter Untrust Us de Crystal Castles.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et nous sommes toujours en studio avec Raph qui coordonne l'antenne de Utopia 56 de Grande-Synthe pour discuter de l'accord migratoire franco-britannique entré en vigueur à l'été 2025. Zoé, je te laisse la parole.
Oui, effectivement. Pour rappel, l'accord One In, One Out, un dispositif qui prévoyait de renvoyer du Royaume-Uni vers l'Hexagone en France les personnes refoulées après avoir tenté de traverser illégalement la Manche sur des embarcations précaires organisées par des réseaux de passeurs, était mis en place. La Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, a qualifié ce système de cynique, déshumanisant et d'attentatoire aux droits. Partagez-vous ce constat, Raph, sur le terrain ou non ?
Oui, on partage ce constat totalement. Pour les raisons qu'on a évoquées juste avant la pause musicale, qui sont qu'il y a un flou sur les critères. Cet accord est basé sur une déportation des personnes d'un pays vers un autre vers lequel il n'y a aucun lien. Premièrement, qui a pour nous un non-respect non plus du droit aux personnes à l'asile, puisque lorsqu'elles rentrent dans cet appareil de la répression du gouvernement britannique, dans l'accord de One In, One Out, elles n'ont pas la possibilité de faire une demande d'asile. Ou en tout cas, la possibilité pour elles de faire une demande d'asile est évaluée de façon très, très rapide, voire trop rapide pour qu'elle soit évaluée. Donc oui, on partage le point de vue de la CNCDH.
Et il y a un mois, par ailleurs, un nouvel accord a été signé à Dunkerque par le ministre de l'Intérieur français Laurent Nunes et son homologue britannique Shabana Mahmoud. L'accord prévoit un budget de 766 millions d'euros versés par Londres sur 3 ans afin d'augmenter les forces de l'ordre, mais aussi une nouvelle unité de CRS ainsi que le déploiement de drones, hélicoptères et autres moyens électroniques pour lutter contre les traversées des personnes migrantes dans la Manche. Est-ce que on est en train de transformer cette frontière franco-britannique en une zone de contrôle quasi militaire selon vous ?
La zone frontière franco-britannique évolue de plus en plus vers une zone ultra sécurisée et ultra militarisée, en effet, où il y a énormément, un panel d'outils de répression étatique, alors que ce soit de la répression policière, répression humaine, qu'il y ait des outils de répression judiciaire, etc., qui soient mis en place. En effet, on observe qu'il y a un panel diversifié et qui prend de plus en plus d'ampleur à cette frontière. Ce qui est important de notifier sur ces accords franco-britanniques, c'est qu'ils font suite à des accords qui, de 2023-2026, pareil, sur un accord financier de 540 millions d'euros. Là, ce qu'on observe depuis ce nouvel accord trouvé au mois d'avril 2026, c'est qu'il y a une enveloppe allouée qui est encore plus grande. Une enveloppe monétaire encore plus grande que celui d'avant, et que la quasiment entièreté des fonds britanniques vont être utilisés dans la répression. Des informations que l'on a actuellement, il n'y a aucun centime de cet accord qui sera dirigé vers les missions de sauvetage et de secours en mer, vers les services hospitaliers, vers les centres d'accueil sur le littoral, etc. Tout cet argent est orienté vers la répression. Nous, ce qui pose un problème, puisque la répression est pour nous la cause principale de la mise en danger des personnes. Si les personnes prennent de plus en plus de risques pour tenter les traverser en petite embarcation, c'est qu'il y a une très trop forte présence policière sur le littoral du nord de la France. C'est que la quasi-totalité du littoral est surveillée à l'aide de caméras de surveillance. Lorsqu'il y a la météo qui est plus clémente en mer, la totalité du littoral du nord de la France est quadrillée par des drones, par des hélicoptères, par des avions qui appartiennent à l'agence Frontex. Le paysage a énormément changé pour laisser place à des barrières, des barbelés dans le nord de la France. Donc il y a l'orientation à la fois, enfin la matérialisation à la fois humaine par la forte présence policière, mais aussi matérielle par les barbelés, etc. De la frontière qui se durcit dans le nord de la France et le durcissement de cette frontière vis-à-vis par les différents outils de répression a des conséquences directement sur le risque que les personnes doivent prendre et leurs conditions de survie aussi sur les différents lieux de vie, puisqu'on observe en même temps une intensification des opérations d'expulsion des lieux de vie. Alors quand on parle de lieux de vie, il faut s'imager en tête des personnes qui... donc plusieurs milliers de personnes qui survivent en tente dans des lieux non praticables, enfin dans la boue, etc. Et une fois par semaine sur le Dunkerquois et quasiment tous les 48 heures, voire depuis deux semaines tous les jours dans le Calaisis, des compagnies de CRS viennent expulser les lieux en volant et confisquant tous les effets personnels des personnes, que ce soit les tentes ou les couvertures, etc.
D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'est rendu aussi récemment au futur centre de rétention administrative situé dans la ville de Loon-Plage, un lieu fermé de 140 places où uniquement les hommes en situation irrégulière en attente de leur éloignement forcé sont placés là-bas. Certains élus locaux le présentent comme une amélioration, je cite, « mieux que les tentes et la boue ». Vous leur répondez quoi aux élus ?
Alors pour nous, en tout cas pour Utopia 56, les CRA sont un outil de la répression judiciaire qui est ultra violent pour les personnes qui sont incarcérées. Alors il y a notamment, et je pense qu'il y a de nombreuses associations qui pourront mieux en parler que nous, mais il y a un rapport qui est sorti hier des différentes associations qui interviennent en CRA et qui parlent de la violence que les personnes subissent dans les centres de rétention administrative. Alors pour nous, en effet, ce genre de lieu, c'est un lieu inhumain où la condition humaine n'est pas respectée. C'est un lieu d'enfermement arbitraire, puisque c'est un lieu qui est sous la direction du ministère de l'Intérieur. Voilà quoi dire de plus sur les centres de rétention.
Eh bien, peut-être face à cette répression de l'État, pouvez-vous nous en dire plus sur ce que seraient les solutions pour un meilleur accueil plus humain, plus sûr et plus juste ?
Il y a pour nous une solution qui est et assez simple, c'est d'orienter la politique de l'État, mais aussi les politiques plus locales, de la répression vers l'accueil et l'accompagnement. Enfin, c'est quelque chose qui est envisageable, qui est faisable assez rapidement. C'est-à-dire que tout l'argent qui est investi dans la répression et dans les mesures sécuritaires, plutôt la réorienter vers la création de centres d'hébergement d'urgence inconditionnel sur le littoral, mais aussi en fait ce sont des politiques pas appliquées que d'un point de vue local, c'est aussi des politiques à appliquer d'un point de vue national, c'est-à-dire d'arrêter cet accueil des personnes par la rue, c'est accueillir dignement et inconditionnellement les personnes, c'est de donner le droit d'installation et de la liberté de circulation à toutes les personnes, et c'est d'arrêter de fabriquer une certaine légalité ou illégalité à travers des papiers administratifs d'un certain droit au séjour dans tel ou tel territoire. C'est en fait changer totalement de perception du monde et de la politique, de la géopolitique, et de redonner un intérêt et une priorité aux enjeux sociaux d'une société, et que ça passe par, comme j'ai dit, l'accueil et l'accompagnement. Et c'est aussi redévelopper toutes les politiques publiques en termes de santé, sociaux, etc. C'est quelque chose qui est faisable et qui dépend juste d'une volonté politique et qui est totalement envisageable. À terme, nous, l'association prône une liberté, comme je l'ai dit, de circulation et d'installation pour toutes les personnes. Voilà, c'est un projet viable et c'est important actuellement de tendre vers ce projet-là, quoi.
Merci infiniment, Raph, d'avoir été en studio avec nous pour discuter de l'accord migratoire franco-britannique. Et on rappelle que l'association Utopia 56 vient en aide aux personnes victimes de la rue, aux migrants, et milite pour défendre les droits, l'égalité et la dignité humaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bonne soirée à vous. Tout de suite, le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonjour à tous, voici votre Flash Info sur Radio Campus. À Paris aujourd'hui, 16 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de plusieurs enquêtes concernant des violences sexuelles dans le périscolaire, notamment autour de l'école maternelle Sainte-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris. Ces interpellations concernant des faits de nature et de gravité différentes selon la justice, cette affaire relance les inquiétudes autour de la protection des enfants dans plusieurs établissements parisiens et pousse la mairie à renforcer les contrôles et les procédures de signalement. Dans le reste de l'actualité en France, le Parlement a validé aujourd'hui la nomination d'Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France. Ancien haut responsable du ministre de l'Économie, il prendra ses fonctions dans un contexte encore marqué par l'inflation et les inquiétudes autour du pouvoir d'achat. Sa nomination a suscité plusieurs débats au Parlement, certains élus dénonçant une personnalité jugée trop proche du gouvernement. À l'international maintenant, les tensions restent très fortes entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a déclaré aujourd'hui que de nouvelles frappes pourraient être envisagées si aucun accord n'était trouvé concernant le programme nucléaire iranien. De son côté, Téhéran accuse Washington d'alimenter l'escalade dans la région. Toujours à l'international, l'Iran évoque désormais la possibilité de mesures concernant les câbles sous-marins dans le détroit d'Ormuz. Ces installations stratégiques permettent une grande partie des communications internet et téléphoniques entre l'Asie, l'Europe et les pays du Golfe. Selon plusieurs experts, cette menace pourrait avoir des conséquences importantes sur les échanges numériques et économiques mondiaux. Et enfin, en culture, Paris se prépare à la Nuit européenne des musées prévue ce samedi 23 mai. De nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes avec des concerts, expositions et animations nocturnes ouvertes au public. À Paris, le Louvre, le musée d'Orsay et le musée du Quai Branly participeront à cette nouvelle édition. C'était Sabrina pour votre Flash Info sur Radio Campus. Excellente soirée à tous.
Et merci beaucoup Sabrina pour ton Flash Info. On fait une petite pause avec Hot Daughter de Sophie Woodhouse. Thank you. C'était Rough Daughter de Sophie Woodhouse.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et c'est l'heure de la chronique actu de Hassan. Bonjour Hassan.
Bonjour Maxime.
Aujourd'hui, tu nous parles de l'exposition Africa Fashion.
Le tissu est à l'Afrique ce que les monuments sont à l'Occident. Cette phrase, empruntée à l'artiste afro-américaine Sonia Clark, pourrait à elle seule résumer la rencontre esthétique et intellectuelle qui nous attend au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Jusqu'au 12 juillet 2026, l'exposition Africa Fashion nous invite à une déambulation qui dépasse de loin le cadre des podiums de haute couture. Car ici, le vêtement n'est pas qu'une affaire de style, c'est un manifeste. Tout commence par une révolution politique. En 1960, 17 pays africains accèdent à l'indépendance en une seule année. C'est le temps du panafricanisme où des leaders comme l'ancien président ghanéen Kwame Nkrumah ou encore le premier chef d'État sénégalais Léopold Sédar Senghor comprennent que la liberté se gagne aussi par la silhouette. En 1957, Nkrumah s'affiche en tissu kanté pour annoncer l'indépendance du Ghana. Un geste radical. Porter le textile local, c'est littéralement décoloniser les esprits. Transformer la fibre en outil de fierté et de souveraineté. Le tissu devient alors le support de récits complexes. Un motif de kanté de Asoke peut évoquer un proverbe, un événement historique ou encore une aspiration politique. Mais l'exposition nous interroge aussi sur un paradoxe. Que signifie exposer ces modes africaines au cœur de Paris, dans un lieu tel que le Quai Branly? Et c'est finalement là toute la subtilité de la démarche. En mêlant à la fois des collections historiques de textiles et de bijoux aux créations d'avant-garde d'Imania Issi ou encore d'Ibrahim Camara, le musée sort ses objets du simple registre ethnographique. On ne regarde alors plus ces pièces comme des vestiges du passé, mais comme des véritables moteurs d'une économie créative mondiale. On y découvre une scène contemporaine, effervescente, qui refuse d'être enfermée dans des stéréotypes. Des créateurs, comme le duo sud-africain Musso Maxwell, utilisent la mode pour briser les idées reçues sur l'Afrique, prouvant que l'on peut être profondément ancré dans son héritage, tout en étant résolument moderne, influencé par la science et les technologies. En fin de compte, Africa Fashion nous rappelle que l'Afrique n'est pas un continent qui s'éveille à la mode, mais un continent qui, depuis les indépendances et bien avant encore, n'a cessé d'occuper sa place de créatrice de culture, comme le réclamait déjà Senghor dès 1966. C'est une invitation à voir la mode non pas comme une futilité, mais comme une forme d'art total, un médium qui permet de se réapproprier son propre récit. Alors Africa Fashion, c'est à découvrir dès maintenant et jusqu'au 12 juillet au musée du Quai Branly, une exposition nécessaire pour changer notre regard sur la créativité d'un continent qui, plus que jamais, dessine les contours de demain.
Merci beaucoup Hassan pour cette chronique actu. Tout de suite, place au Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Et aujourd'hui dans le Zoom, c'est Betty qui accueille Quentin Bajac, commissaire de l'exposition Martin Parr, qui se tient jusqu'au 24 mai au Jeu de Paume à Paris. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Maxime, bonsoir Quentin Bajac, je ne sais pas si vous nous entendez.
Je vous entends, bonsoir.
Super, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de cette exposition enthousiasmante. Donc pour le rappeler, comme le disait Maxime, le photographe britannique au regard malicieux et mordant, Martin Parr, est mis à l'honneur au musée du Jeu de Paume jusqu'à dimanche. Il vous reste donc 4 jours, auditrices et auditeurs, pour découvrir ou redécouvrir le travail d'un des plus grands photographes contemporains, celui qui nous donne à voir les hors-champs de nos photos de vacances, les plages bondées, les déchets laissés par les touristes, etc., etc. Disparu en décembre dernier, le photographe a participé activement à la conception de l'exposition, donc Alerte Générale, formulée en anglais Global Warning, actuellement présentée donc au musée du Jeu de Paume, aux côtés de vous, Quentin Bajac, donc le commissaire de l'exposition et également directeur du Jeu de Paume, en collaboration avec la galeriste Clémentine de la Ferronnière. Quentin Bajac, pour vous, qui est Martin Parr?
Ouais, Martin Parr est un des très grands photographes de sa période, quelqu'un qui a su saisir une forme d'air du temps et qui a su, ce qui est souvent le cas chez les photographes, bâtir une œuvre avec le temps sur plusieurs décennies. Et je pense que c'est ce dont on s'aperçoit, je l'espère, dans l'exposition, c'est que voilà, en 50 ans, il a traité les mêmes thèmes qui étaient ceux de la civilisation, des loisirs, des errements et des déséquilibres de nos sociétés occidentales et au mode de vie occidentalisé. Mais il l'a fait comme ça, par petites touches, par séries, et qui, petit à petit, au fil du temps, font œuvre.
Est-ce que vous vous rappelez, de votre première rencontre avec son travail ?
Oh oui, son travail, je l'ai rencontré en livre dans les années sans doute 90. Après, j'avais rencontré l'homme au début des années 2000, je pense à l'époque où il était directeur artistique des Rencontres d'Arles. Et puis voilà, j'ai suivi son travail. J'ai acheté son travail pour le Centre Pompidou, pour le MoMA après à New York quand j'y étais. Je l'avais inclus dans des expositions, on avait fait un livre ensemble d'entretien, mais
Ok.
j'avais jamais vraiment eu l'occasion de faire une exposition avec lui.
Et cette exposition, c'est le fruit d'un. Enfin, c'est lui qui est venu vers vous avec cette idée d'exposition. Enfin, comment elle s'est un peu construite, cette
Non,
exposition?
c'est plutôt moi qui suis allé vers
D'accord.
lui et je lui ai dit, Martine, allez, faisons une exposition sérieuse sur ton travail. J'avais remarqué que depuis 10-15 ans, il avait, je dirais, une distance un peu plus critique à l'égard du monde et un regard un peu nouveau sur son travail. Dans beaucoup de ses interviews, il disait, voilà, je travaille sur les déséquilibres du monde, on fonce tous dans le mur, et finalement j'ai documenté ça depuis 40 ans. Et je lui ai dit donc, ben voilà, faisons une exposition sur ce sujet en mettant en avant le fait que derrière l'humour, hein, il y a de l'humour dans beaucoup de ces images, il y a un vrai regard et une vraie réflexion.
À la fin du propos introductif en amont de l'exposition, vous nous laissez avec cette petite note qui, moi, m'a beaucoup plu. Donc, je vous cite, cette exposition conçue en collaboration avec Martine Parr est dédiée à sa mémoire, son enthousiasme et à son regard. Qu'est-ce qui enthousiasmait Martine Parr dans le montage d'une exposition,
Oh.
par exemple, dans le montage de cette exposition, par exemple?
Oh, beaucoup de choses. Martine Parr était, bon, évidemment, un œil incroyable. C'était quelqu'un qui aimait les images, toutes sortes d'images, hein, les siennes, mais aussi beaucoup, et peut-être plus encore, celles des autres, parce que ça a été, par-delà le photographe, un très, très grand collectionneur de livres, de photographies, quelqu'un qui a beaucoup soutenu aussi les travaux, d'autres photographes britanniques ou d'autres photographes, jeunes photographes. Il a été aussi, voilà, commissaire d'exposition, éditeur de livres, donc collectionneur. Donc voilà, il était d'une grande curiosité visuelle, d'une grande érudition. Et ce qu'il aimait, c'était finalement le principe du montage, essayer de bâtir non pas forcément une histoire, mais voilà, de bâtir un propos qui pouvait être de l'ordre de l'essai, du récit, à partir d'images. Et c'est ce qu'il faisait bien et c'est ce qui l'enthousiasmait. Donc voilà, je lui ai proposé ce thème, on a travaillé ensemble. Il m'a reproposé certaines images que je n'avais pas initialement intégrées dans la première sélection. Il a souhaité que soient représentés tous les aspects et toutes les périodes de son travail, des années 70 à des images très récentes que je ne connaissais pas et qui m'a fait découvrir. Et voilà, il avait cette grande curiosité et cet extrême dynamisme qui, malgré la maladie de ces dernières années, le faisait être très actif, aller toujours à son studio tous les jours, continuer à essayer de photographier de manière quotidienne et puis de mener à la fois son travail personnel, de diriger la fondation où il y avait une dizaine de personnes qui travaillaient, et puis de réaliser aussi beaucoup de commandes et de projets.
Et donc c'est vous qui êtes arrivé, donc pour rappeler aux auditeurs, auditrices, ou pour voilà, vous donner un peu des éléments sur l'exposition. Donc il y a cinq grands thèmes du travail de Martine qui sont présentés dans cette exposition. Donc la première partie qui est terre de loisirs et terre de déchets. La deuxième, tout doit disparaître. Troisième, petite planète. Quatrième, le règne animal. Et cinquième, addiction technologique. Est-ce que ces thèmes, du coup, vous êtes venus avec pour voilà, dire à Martine, voilà, il y a ces cinq grands thèmes sur lesquels je voudrais travailler, ou c'est au fur et à mesure de vos
Oui.
discussions, comment ça s'est un peu fait, comment ça s'est un peu monté, tout ça?
Un peu des deux, il y a des thèmes qui s'imposaient d'emblée, la consommation, le tourisme, parce que ça avait été depuis 40 ans ces grands thèmes,
Oui,
le
c'est
tourisme
pourquoi il est
planétaire qu'il
connu.
avait abordé dès les années 90. La consommation, qui n'est pas un sujet pourtant extraordinairement photogénique, mais que lui avait traité dès la fin des années 70 et dès le début des années 80. Et puis voilà, et puis d'autres thèmes se sont rajoutés qui relevaient peut-être un peu moins de l'évidence. La plage, parce que la plage, c'était pour lui, il parlait beaucoup de la plage, il disait qu'il aimait beaucoup travailler à la plage et que la plage avait toujours été pour lui une forme de laboratoire. Il y avait expérimenté les techniques et puis il aimait y photographier parce que c'était pour lui un condensé justement des contradictions de notre société des loisirs, le fait que
Malgré
la
le fait
plage était très.
qu'il ne savait pas
Il ne
nager.
savait pas nager, mais sa femme était une grande nageuse et lui donc aimait rester sur le sable et photographier des gens qui n'étaient pas sur leur garde et qui se laissaient photographier facilement. Et puis voilà, et puis par exemple, notre rapport aux vivants, aux animaux, c'est un thème que je lui ai proposé. dont il n'était pas forcément absolument conscient au début. Et puis je lui ai dit, si, Martin, tu vois, c'est un thème qui se déploie dans ton œuvre depuis le début. Et il l'a accepté. Et finalement, je trouve que c'est une des sections qui marche le mieux et qui est la plus étonnante de l'exposition. Et puis la machine, les addictions technologiques, voilà, ça aussi, c'était un sujet sur lequel, de la voiture au téléphone portable, il avait fait de nombreux livres dans une dimension presque d'anthropologue, parce que c'était un photographe documentaire. Il insistait beaucoup sur cette définition. Je suis un photographe documentaire, mais qui s'intéressait à l'humain et à la façon dont l'humain était modifié par l'intrusion de toute cette nouvelle technique. Et voilà, et je pense que s'il était vivant, il aurait commencé aujourd'hui à travailler sur l'intelligence artificielle, non pas avec, mais sur l'intelligence artificielle, et il aurait trouvé un moyen de le faire de manière photogénique.
On est à la radio, donc on peut pas, on n'a pas de visuel. Est-ce que vous pourriez nous décrire une des photos de l'exposition, une des photos qui vous questionne, vous interroge, puisque c'est aussi ça le travail de Martine Parr, nous interroger un peu sur nos contradictions en tant que société. S'il y avait une photo, laquelle ce serait?
Alors, je pensais à une photo qui est dans la première section sur la plage. C'est une des photographies de la série qu'il a fait connaître, qui était une série qu'il avait faite au milieu des années 80 sur une petite station balnéaire dans les environs de Liverpool, une station balnéaire finalement très, très populaire. Et on y voit une femme qui bronze, mais qui ne bronze pas sur une plage de manière classique, qui bronze sur un pan incliné, qui a un pan incliné en béton. Et qui pose à 10 cm d'un engin de chantier qui semble la menacer. C'est une œuvre un peu absurde parce qu'on voit à la fois passer des piétons. On se demande d'ailleurs si elle est véritablement morte ou vivante. C'est une photographie de plage, mais photographiée presque comme une scène de crime. Il y a un enfant à côté d'elle qui semble lui parler ou peut-être pleurer. Et on a vraiment l'impression d'un collage dans la réalité. Et ça, et avec un humour un peu absurde, qui était vraiment la marque ou le style de Parr.
Merci beaucoup. Et pour avoir été voilà, visiteuse, enfin, je sais même pas, enfin, bref, visiteur de l'exposition,
Oui.
J'avais une question autour de la scénographie, puisqu'il y a pas mal
Oui.
de enfin, vous avez construit donc des cloisons pour créer des différences d'espace entre enfin, un espace et l'autre, et vous avez
Oui.
donc créé des petits carrés comme des sortes de cadres, en fait, dans ces cloisons. Et quel était un peu le but? Parce que moi, j'ai vu pas mal de gens pendant l'exposition prendre des photos à partir de ces cloisons. De gens étant en train de prendre des photos, deux photos bondées de Martine Parr. Enfin, il y avait un peu cette idée de arroseur arrosé, enfin, personne, enfin, Martine qui prend des photos de gens prenant des photos et des personnes dans le musée en train de prendre des photos de Martine prenant des gens en photo. Enfin, bref, je me perds, mais vous m'avez compris. Quelle était un peu l'idée de ces cadres?
Ben c'était ça l'idée qui ne vient pas de moi, mais qui vient du scénographe avec lequel on a travaillé, qui est Kevin Le Bouvier, et qui est un scénographe avec lequel on travaille fréquemment, et qui a eu en effet cette idée des ouvertures qui était là à la fois peut-être pour créer un peu d'air, d'espace, des perspectives, et puis aussi qui était là pour finalement encourager d'une certaine manière les gens à photographier et à se photographier devant les images de Martine Parr et à créer en effet peut-être eux-mêmes des Martine Parr, puisque c'est un style qu'on peut facilement d'une certaine manière s'approprier. On a tous l'impression, qui est une impression fausse, hein, qu'on pourrait photographier comme Martine Parr. C'est sans doute un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, c'était cette idée de cadrer différemment et d'encourager justement les gens à cadrer, qui est cette idée qu'a développée Kevin dans les 5 salles de l'exposition et qui fonctionne très bien. En effet, moi, je monte souvent dans les salles et je vois que c'est une exposition dans laquelle les gens photographient pas mal. Les gens photographient pas mal les gens en train de regarder et les
Exactement.
gens échangent beaucoup aussi verbalement autour des images. C'est une exposition qui crée du lien. Des gens qui ne se connaissent pas commentent les images, parfois de manière très simple. J'y suis allé ou j'y suis pas allé. Ou... Voilà. Mais il y a un échange. C'est une exposition où il n'y a pas du tout une ambiance, cette ambiance parfois un tout petit peu d'église, où on baisse la voix.
Oui, ouais.
C'est une exposition assez bruyante, en
Ouais.
fait, d'une
Oui,
certaine
assez
manière. Et c'est très
collective,
bien comme
assez
ça.
tout à fait. fait, ouais. Et assez bondé, en fait. On est un peu dans une photo de Martine, en regardant du Martine, finalement. Très bien. Pour terminer, vous avez une photographie ou une série de photographies de Martine Parr qui vous plaît particulièrement. Un livre ou en tout cas quelque chose sur lequel les auditeurs peuvent aller un petit peu fouiller si on est fan de Martine ou qu'on vient de découvrir son travail, sur quoi on peut aller un peu fouiller.
Ah, si on est fan, si on veut découvrir le travail, il faut aller, voilà, je crois que ces trois livres les plus importants sont le livre qu'il a consacré au tourisme dans les années 90 et qui a été réédité sous diverses formes, qui s'appelle Petite Planète, Small World en anglais. Un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Common Sense de la fin des années 90, où il a photographié de très près des souvent de la nourriture ou des objets du quotidien dans des couleurs très 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 flashy, qui est un peu une sorte de d'anti-photographie publicitaire, puisqu'on n'est pas du tout dans un embellissement mais presque plutôt dans un enlaidissement du monde. Il en parlait comme son travail le plus politique. Et puis cette série du milieu des années 80 que j'évoquais déjà, qui s'appelle The Last Resort, qu'il a aussi sorti en livre. Tous ses livres ont été édités, réédités, et qui est sur cette station balnéaire des environs de Liverpool. Voilà, mais il y en a beaucoup. Il a fait plus de 120 livres, et il y en a énormément qui sont magiques.
Merci beaucoup, Quentin Bajac, d'avoir été avec nous. On rappelle que l'exposition sur le travail de Martine Parr, dont vous êtes le commissaire, se tient jusqu'à la fin de la semaine au Jeu de Pommes. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Et pour vous, chers auditeurs, un dernier petit plaisir musical avec La Bête de Assinine.
Essaie pas de m'endormir, me compter les moutons. Me parle pas du pourtant des moussons. J'ai cramé tes cartes dans la manche. Tout était haut quand le bateau penchait. J'ai vu le sang d'un type se faire boire par le goudron. Son deal est grave bizarre, je continue la journée en normal. C'est même pas certain que je dors mal. Ma gueule, je suis pas Sylvain et plein, mais l'eau est trouble. Que des casse-têtes et des blèmes à résoudre. Les tissus de mensonges donnent du fil à retordre. Ça prendra une vie entière de les découdre. Ils veulent s'acheter des ailes et se limer les cornes. C'est pas assez une vie entière. Je suis dans le studio avec moi et la bête. Je sais plus laquelle est laquelle. Ce soir, je suis pas dans le monde. Les ronçons envahit la pièce. J'ai fumé des clopes à la chaîne. Donc le brouillard envahit la plaine. Ce soir, je suis pas dans le monde. Ce soir, fait crier le monde. Je suis dans le studio avec moi et la bête. Je sais plus laquelle est laquelle. Ce soir, je suis pas dans le monde. Les ronçons envahit la pièce. J'ai fumé des clopes à la chaîne. Donc le brouillard envahit la plaine. Ce soir, je suis pas dans le monde. Ce soir, fait crier le monde. Je me suis fait du sang, donc ça a fait des taches. Y'en a partout dans la porte, j'en ferai des sons, moi j'en ferai des tâles. Je peindrai avec, moi j'en ferai des toiles. J'aime pas trop leur sourire de vampire, j'ai cru voir les temps qui dépassent. Le diable il est partout, l'espoir il est mince comme une danseuse étoile. Réformé comme l'air sur les marches ou un type a fait une ou délavé. Une biche pense à poser là, les yeux qui débordent. La honte colle à la peau, la griffe et la dévore. Le bourreau et relâche là à la javelle. Hier c'était la même et demain ce sera pareil. Demain ce sera pareil. J'suis dans le studio avec moi et la bête. J'sais plus laquelle est laquelle. Ce soir j'suis pas dans le monde. Les ronçons envahit la pièce. J'ai fumé des clopes à la chaîne. Donc le brouillard envahit la plaine. Ce soir j'suis pas dans le monde. Ce soir fait crier le monde. J'suis dans le studio avec moi et la bête. J'sais plus laquelle est laquelle. Ce soir j'suis pas dans le monde. Les ronçons envahit la pièce. J'ai fumé des clopes à la chaîne. Donc le brouillard envahit la plaine. Ce soir j'suis pas dans le monde. Ce soir fait crier le monde.
C'était La Bête de Assinine.
La matinale de 19h.
Et on termine cette matinale avec la chronique de Lia. Bonjour Lia.
Bonsoir à tous. C'est pour moi un grand moment d'émotion. Je m'apprête à célébrer un anniversaire. Deux belles années de relations, deux ans de joie, de doutes, de rebondissements et parfois d'amertume. Deux ans que je suis sur Tinder. Autant jadis, je me disais plutôt mourir que d'installer une appli de rencontre. C'est le paroxysme du capitalisme, de la consommation amoureuse et du repli sur soi. C'est l'anéantissement de la spontanéité, la destruction du lien social. Chaque fois qu'un mec installe Tinder, un bébé panda meurt quelque part. Mais voilà, il suffit parfois d'une rupture et on fait une croix sur tous ces principes. Après 5 années de couple, j'ai donc téléchargé cette application. Son logo représente une flamme et ce n'est pas une coïncidence, car l'enfer s'est ouvert devant moi. Hadès m'a tendu la main et me voici embarquée dans la grande aventure du dating. Avant, j'étais en couple libre. Je n'ai pas redécouvert le monde extérieur. En revanche, parler à d'illustres inconnus était nouveau. Tu swipes, tu likes, bingo, tu matches, et avec un peu de chance, la personne t'écrit. Au début, tu veux répondre à tout le monde. Bah oui, la politesse, le respect, la communication, ces valeurs ne t'ont pas encore quitté. Ton âme est pure, mais rien ne dure. Tinder m'a rendue mauvaise. J'ai fini par ignorer les messages, les avances, à ghoster sans prévenir, alors que j'avais initié la conversation. J'avais raison de redouter le consumérisme. Cette profusion d'humains fait tourner la tête. Tu prends, tu jettes. Si cette meuf n'est pas dispo, il y en aura bien une autre. Bref, un grand magasin. Mais le plus insidieux, c'est l'insatisfaction. Avant, quand je rencontrais quelqu'un qui me plaît, je ne me disais pas « Tiens, peut-être que je peux trouver mieux. » Mais avec Tinder, j'ai développé des exigences aberrantes. Ah, ça aurait pu être la femme de ma vie. Mais dommage qu'elle n'apprécie pas Georges Brassens. Je l'aurais épousée si elle n'avait pas cette monture de lunettes. C'est absurde, c'est superficiel, et j'ai un très bon exemple pour le démontrer. Suite à notre rupture, mon ex aussi a installé Tinder. Je l'ai même aidé à créer son profil, à choisir les plus belles photos, une bio qui claque, etc. Je l'aide à créer son profil, et vous savez quoi ? Bah, ce profil, si j'étais tombée dessus, que je ne connaissais pas mon ex, eh bien, je ne l'aurais même pas liké. Je me serais dit qu'il y a mieux. Alors que dans la vraie vie, eh bien, je suis tombée amoureuse d'elle. La vibe, le charisme, l'aura, ça n'apparaît pas sur l'écran. Bon, malgré tout, je ne crache pas sur l'application. Grâce à Tinder, les chagrins d'amour étaient moins longs, plus divertissants. J'ai inondé mes potes de dramas et d'anecdotes croustillantes. J'ai recroisé d'anciens dates, j'ai découvert des sons et des bars sympas. J'ai travaillé mon anglais, mon italien, j'ai soigné une mycose. J'ai re-questionné mes goûts, mon orientation sexuelle, mes clichés, mes a priori sur les autres. En somme, j'ai quand même appris 2-3 trucs.
Merci beaucoup Lia, et on te souhaite beaucoup de courage dans ce boulevard du date qui s'ouvre devant toi. Et c'est déjà la fin de cette matinale. Merci à Zoé pour l'interview, à Betty pour le Zoom, à Sabrina pour le Flash Info, à Hassan et Lia pour les chroniques. Merci à David et Marianne pour la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs. C'était Maxime à la présentation. La matinale de 19h revient demain à 19h. Très bonne soirée à vous sur le 93.9.